Catherine Chalier, comment en êtes-vous venue à vous intéresser à ces personnages que sont Sarah, Rebecca, Rachel et Léa?
Dans la tradition juive, on parle toujours du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et les patriarches sont mentionnés non seulement dans les prières, mais dans les études que l'on fait de la Bible de façon beaucoup plus importante que les matriarches. Et il m'a semblé qu'il serait bon d'essayer pour une fois de les mettre au premier plan, essayer de montrer tout le rôle absolument indispensable qu'elles avaient eu dans la bonne compréhension du sens de l'élection. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'y intéresser en me servant essentiellement des commentaires de la tradition. Parce que vous savez sans doute que dans la tradition juive, on ne lit pas la Bible toute seule, mais on la lit toujours à la lumière des commentateurs traditionnels, en particulier les Midrashim et encore d'autres grands commentateurs. Et au fond, chacun, vous, moi, a la possibilité d'apporter sa lumière sur cette compréhension, à condition que ça soit en fidélité à la tradition.
Mais il y a quand même des oppositions dans la tradition. J'ai remarqué en lisant votre ouvrage, Les Matriarches, que ces traditions ne concordent pas toujours. Certains voient un événement ou un fait ou un caractère dans un sens et un autre.
Ah oui, bien sûr. Il n'y a pas un monolithisme, il n'y a pas de dogme. Les voies sont ouvertes à différentes compréhensions. On dit même que parfois, des querelles sur une interprétation, quand elles se font au nom du ciel, eh bien, elles dureront jusqu'à la fin des temps. Il n'y a pas de monolithisme. Mais ce qui peut être intéressant, c'est essayer, en partant de ces interprétations, d'en dégager un sens, peut-être un aspect de sens auquel on était particulièrement réceptif.
Ça suppose donc que vous ayez fait des études sur cette tradition rabbinique.
Oui, et il n'y a pas de lecture juive possible des textes de la Bible, encore une fois, sans en passer par ce que l'on appelle la sagesse des sages et essayer de poursuivre en fidélité à cette tradition, mais en la questionnant aussi.
Et comment rejoint-on ce club des sages?
Je crois qu'il suffit d'étudier. Enfin, les portes de l'étude sont ouvertes à qui veut.
Alors, votre ouvrage, par exemple, pourra peut-être un jour être cité également comme étant un ouvrage de sagesse.
Je ne sais pas.
Que doit votre pensée à Emmanuel Levinas, que vous citez beaucoup?
Alors, bien entendu, c'est l'autre aspect essentiel, disons l'aspect plus philosophique. Je me sers, bien sûr, de la pensée d'Emmanuel Levinas en tant que, pour moi, elle a été un éveil véritablement à la pensée, et qu'elle m'aide à comprendre et à questionner ces textes. Je crois d'ailleurs que je ne suis pas la seule. Il représente en France à l'heure actuelle l'un des principaux penseurs du judaïsme. C'est l'un des principaux penseurs du judaïsme.
Et un des principaux philosophes.
Et un des principaux philosophes d'une façon générale.
Dites-moi, votre approche quand même, elle est donc une approche de philosophe, une approche analytique, j'oserais presque dire une lecture symbolique des événements. Mais que doit-elle à l'histoire, à l'exégèse, à la science précise que constitue l'exégèse?
Alors, je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire par science précise de l'exégèse, mais il s'agit d'avoir une approche scientifique des textes, de savoir quand ils ont été écrits, etc., bon, si on peut les dater, ce n'est pas ça du tout qui m'a intéressée dans ce travail. Ce qui m'intéresse, c'est la signification qui se dégage de ces textes et une signification qui est vivante pour nous aujourd'hui. C'est ça qui me semble le plus important. Je dirais encore, qu'est-ce qu'elle doit à l'exégèse? Elle doit au fait que la plupart de ces significations, elles sont dégagées de la lettre hébraïque. Je crois qu'on ne peut pas faire l'économie d'une lecture en hébreu pour comprendre véritablement ces textes. On part de la lettre, pour arriver à l'esprit, mais on ne donne pas congé à la lettre. On y revient sans cesse, comme au fond, on interroge la lettre pour qu'elle nous réponde, mais elle nous donne beaucoup plus que ce qu'on a voulu nous lui donner.
Recherche de sens, mais si je vous comprends bien, non pas simplement d'un sens intellectuel, mais recherche d'un sens pour la vie.
Recherche d'un sens pour la vie et d'un sens dont je voudrais montrer dans ce livre qu'il n'est pas lié à une temporalité précise qui serait celle de ce lointain passé de la vie des patriarches, mais qui me semble être valable pour nous aujourd'hui, hommes et femmes, qui nous voulons fidèles à l'alliance d'Abraham.
Ce qui s'est passé, donc, nous concerne encore.
Bien sûr.
Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu ça que j'aimerais que vous nous disiez, n'est-ce pas? Parce que je reprendrai même le début de notre entretien. Nous sommes habitués à entendre parler du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob. Et voilà que tout à coup, par vous, il devient aussi le Dieu de Sarah, de Rebecca, de Rachel et de Léa. Alors, qu'est-ce que ça change précisément, ça?
Je ne sais pas si ça change. Je crois que ça donne un éclairage sur des vies qui n'ont pas été suffisamment interrogées, sollicitées. Et je crois que s'il n'y avait pas eu ces femmes dans la Bible, l'élection n'aurait pas été ce qu'elle était. Prenons un exemple, si vous voulez. Lorsque Rebecca, au moment où Isaac va bénir Ésaü, va substituer l'autre fils, c'est-à-dire Jacob. Bon, il se joue là un moment extrêmement important parce que c'est tout l'enjeu de qu'est-ce que va devenir l'élection. Est-ce que c'est Ésaü qui va la recevoir, si Isaac le bénit, ou bien est-ce que c'est Jacob? Une bénédiction donnée ne peut pas être prise. Or, si vous voulez, nous avons là, avec Ésaü et Jacob, deux interprétations possibles de l'élection. Et il semble que sur ce point, Rebecca soit plus vigilante,
plus clairvoyante.
D'ailleurs, c'est pas moi-même qui le dis. Enfin, la tradition dit que ces femmes étaient supérieures en degré de prophétie à leurs époux. Donc, c'est pas simplement une interprétation pour tirer à moi ces femmes. C'est vrai de la tradition. Même Rashi le dit. Rashi, c'est un des plus grands commentateurs de la Bible, entre autres. Alors, si c'était Ésaü qui avait reçu la bénédiction, nous aurions une interprétation de l'élection qui serait en termes de fierté, en termes de droit d'être. Ésaü, c'est...
Terme naturaliste.
En termes naturalistes, c'est celui qui affirme sa fierté d'être, c'est un conquérant, il vit de la rude vie du chasseur, etc. Si c'était cette vision-là de l'élection qui avait été choisie, c'est-à-dire si Ésaü avait reçu la bénédiction, l'élection serait interprétée dans un sens de fierté et de droit d'être naturel. Personne ne pourrait contester mon droit d'être reçu par naissance. Or voilà qu'avec Rebecca, c'est l'autre fils qui est choisi, Jacob, dont nous dit la tradition qu'il passait sa vie à étudier, c'est-à-dire il ne pouvait pas se satisfaire, pour reprendre l'expression à Lévinas, de tout ce qui nourrit le corps sans nourrir l'esprit. Et le sens de l'élection qui va se trouver finalement privilégié et qui est à mon sens le véritable sens de l'élection, c'est un devoir, un surcroît de responsabilité. Parce que étudier la loi, comme Jacob le faisait, c'est étudier finalement un commandement au bien sous toutes ses modalités, et c'est ce sens-là qui va se trouver privilégié, c'est-à-dire un service et pas un droit.
Une éthique, comme vous dites.
Une éthique.
Et vous insistez beaucoup sur cette portée éthique de l'élection avec un double volet, la responsabilité envers soi et la responsabilité envers l'autre.
Oui, mais je dirais sans doute avant tout la responsabilité envers l'autre. Prenons un deuxième exemple, si vous voulez bien, avec Sarah, pour prendre une autre matriarche. J'ai noté dans ce livre que la première fois où un homme adresse la parole à une femme dans la Bible, c'est entre Abraham et Sarah. En effet, vous pouvez regarder, Adam et Ève ne se parlaient pas. Ils se sont accusés mutuellement, mais ils ne se parlent pas. Or, le premier dialogue entre l'homme et la femme s'entame d'une façon étrange. C'est quand Abraham et Sarah arrivent aux portes de l'Égypte Et soudainement, Abraham regarde sa femme et est émerveillé par sa beauté, comme s'il ne l'avait jamais vue.
D'ailleurs, ces femmes sont belles. J'insiste beaucoup là-dessus, oui. N'est-ce pas ?
Et Sarah est considérée comme la plus belle, d'ailleurs. Mmh. Et Abraham a peur, il a peur pour lui. Il a peur que les Égyptiens s'emparent de Sarah et l'éliminent lui. Or, la première parole qu'il lui adresse, c'est de se faire passer pour sa sœur, pour avoir grâce à elle la vie sauve. Et la réponse de Sarah, une réponse silencieuse d'ailleurs, c'est un consentement à cette demande. C'est-à-dire que plus haut que le souci pour elle-même, eh bien, elle place le souci pour autrui, en l'occurrence Abraham. Et cette responsabilité pour autrui, une responsabilité qui n'est pas choisie, il ne s'agit pas de dire, voilà, je me fais responsable, c'est moi qui en décide, mais une responsabilité qui vous investit comme venue du plus lointain passé, c'est ça qui inaugure le dialogue entre l'homme et la femme, et je crois que c'est bien sûr ça l'essentiel, la dimension essentielle du lien religieux dans la Bible, c'est-à-dire ce « me voici », c'est un terme de la Bible, « inoni », dit à autrui, cette disponibilité à lui, sans questionner même ses raisons. Et ça, c'est particulièrement essentiel donc pour comprendre qu'est-ce que c'est le lien religieux. Je dirais encore, si vous voulez, pour la Bible, il n'y a jamais l'expression « je crois en Dieu ». Mais le moment où Dieu vient habiter les mots de l'être humain, c'est précisément « me voici » dit à autrui. Ça, c'est le moment où Dieu vient habiter les mots humains.
Mais alors, de regarder justement l'élection, comme vous dites, pas, du point de vue non pas d'Abraham, non pas du côté des mâles, mais du côté des femmes. Est-ce que ça change aussi notre regard sur Dieu ?
Écoutez, bien sûr, ce type d'attitude que je viens de décrire, cette responsabilité vis-à-vis d'autrui, il est tout à fait clair que les hommes en sont aussi capables. Me voici, Abraham lui aussi dit ça. Mais ce qui est particulièrement significatif, c'est dans la Bible, du moins dans les chapitres que j'ai étudiés ici, Dieu s'adresse à l'homme, il s'adresse à Abraham par exemple, et c'est à Dieu qu'Abraham répond « me voici ». Mais ce qui est particulièrement intéressant en ce qui concerne les femmes, c'est que Dieu ne s'adresse jamais directement à elles. Et le « me voici », c'est à l'autre homme, à l'être humain qu'elles le disent. Comme si peut-être il y avait du côté de ces femmes une conscience aiguë finalement de la présence de Dieu dans l'homme lui-même, une compréhension peut-être plus intuitive de l'idée que l'homme est fait à l'image de Dieu et qu'à la limite, il n'ait plus pas été besoin que Dieu leur adresse la parole directement. Par exemple, pour voir le pendant de ce que je viens de rappeler entre Abraham et Sarah, plus tard, Sarah va demander aussi à Abraham quelque chose. Elle va lui demander d'aller vers Agar et pour qu'elle puisse, grâce à Agar, avoir un enfant. Mais il faudra que Dieu dise à Abraham, fais ce qu'elle te dit.
Oui, d'ailleurs, il y a quand même pour nous, à la fin du XXe siècle, quelque chose d'un peu choquant de voir ces femmes donner leur servante. Enfin, vous nous parlez de Sarah, mais vous auriez pu nous parler aussi de Rachel et de Léa qui ont posé des gestes semblables. C'est choquant. Alors, on comprend mal que vous parliez d'éthique.
Non, je crois que bien sûr c'est choquant pour nous, mais ça correspondait tout à fait à des normes de l'époque. Ce n'était pas choquant dans l'esprit de l'époque. Mmh. Ça c'est sûr. Bon, je conçois très bien qu'on ne l'apprécie pas. Mais bon, en fait, je dirais maintenant on peut aussi être choqué. Je veux dire, faut bien voir que ces hommes et ces femmes ne sont pas des saints, ils ont leurs qualités, leurs défauts, et je crois que la Bible n'a jamais voulu présenter des hommes et des femmes absolument hors du commun, mais des hommes et des femmes comme nous, bon, qui peuvent avoir aussi des moments de colère, par exemple, comme Sarah vis-à-vis de Hagar.
Et puis Rebecca, c'est quand même une supercherie, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, on dirait, elle a trompé.
Oui, mais là, je reprendrai ce que je disais tout à l'heure. Bien sûr, si on prend un premier niveau, on peut dire c'est une supercherie, on peut dire, mais alors c'est absolument incroyable, elle préférait un de ses fils à l'autre, etc. Je crois qu'il faut prendre un autre niveau et voir que se jouait là un moment clé de l'histoire sainte, c'est-à-dire qu'allait devenir l'élection. Et donc, pas l'interpréter dans un sens purement psychologique, qui ne serait pas satisfaisant du tout, mais dans un sens spirituel, et de comprendre qu'il y avait peut-être même là quelque chose qui la dépassait elle-même.
D'ailleurs, c'est de ça qu'il est question continuellement dans votre ouvrage. Il s'agit de l'élection et du devenir de l'élection à travers des femmes.
Oui. On en voit par exemple un autre thème, donc par exemple avec la hantise de la stérilité, qui est un thème qui revient très souvent.
Chez Sarah, chez Sarah, Rebecca, chez Rachel aussi.
Chez Rachel aussi. On peut se demander pourquoi ce thème est si récurrent. Alors il y a une tradition qui dit c'est parce que Dieu aime la prière des justes. Et alors il aime que les justes prient. Bon, ça c'est peut-être vrai, mais je crois qu'on peut voir encore un autre niveau de compréhension, c'est que prier pour avoir un enfant, c'est peut-être aussi prier pour se rendre capable de recevoir cet enfant comme un don, et pas simplement comme l'objet de son désir. Et je crois qu'on voit bien ça à propos de Sarah, lorsqu'elle apprend qu'elle va enfanter, bon, elle rit. Et les sages se sont interrogés, ont interprété ce rire de façon un peu négative. Mais on peut comprendre ce rire autrement, parce que peut-être que ce rire, c'est le sentiment que cette femme, malgré son grand âge, malgré le grand âge d'Abraham, n'avait jamais fait son deuil de ce qu'elle n'avait pas eu, qu'elle n'avait pas pactisé avec sa souffrance, qu'elle n'avait pas pactisé avec sa misère, et que cette espérance de recevoir un fils grâce auquel, finalement, elle pourrait dépasser sa propre temporalité et être un maillon dans l'Alliance, eh bien, elle s'est peut-être enfin rendue capable de le recevoir. Et plus tard, quand il naît, elle en parle en termes de don. En termes de don et pas en termes de possession. Et moi, je pense que cette insistance sur la stérilité, il y a peut-être là une grande sagesse, c'est nous enseigner comment recevoir l'enfant comme un don et non pas du tout comme ce qui est tributaire seulement du désir des parents.
Et on retrouve donc toujours ce thème qui est constant, enfin cette espèce de toile de fond qui est constante dans votre ouvrage, cette opposition entre l'ordre éthique et l'ordre naturel. Oui. L'éthique est au-delà de
ça,
la nature.
Ça, je le crois profondément. Non pas que la nature soit mauvaise, puisqu'il est dit en Genèse que Dieu a créé le monde et après les différentes choses qui ont été créées, bon, et c'était bon. Mais je crois que l'ordre de la nature laissé à lui-même, c'est un ordre fondamentalement égoïste. Je prends égoïste non pas du tout dans un sens moral, comme un vilain défaut, mais dans un sens ontologique. En ce sens que, du point de vue de notre nature, par exemple, prenons nos besoins biologiques de nous nourrir, de manger, eh bien, nous sommes égoïstes, c'est-à-dire nous prenons les choses du monde et nous les faisons nôtres, nous les assimilons à nous pour persévérer dans notre être, pour nous affermir, etc. Or, je crois que la Bible nous enseigne une ouverture à un autre que nous et elle nous enseigne à nous décentrer par rapport à cet égoïsme. Et elle nous entraîne donc, je ne dirais pas à contredire la nature, mais plutôt à la transcender.
Mais alors, on a parlé de sainteté tout à l'heure, n'est-ce pas? Quelle est la sainteté de l'être éthique?
La sainteté de l'être éthique, je dirais que c'est le souci de l'autre comme fondamental, comment le souci de l'autre est premier par rapport au souci où je suis de moi-même. Je dirais que c'est ça, la pensée de la sainteté. Je crois que cette pensée de la sainteté, elle est constamment présente dans la Bible. Je ne dis pas qu'elle est accomplie sans cesse, mais que cette présence est là dans la Bible, comme peut-être aussi elle traverse l'esprit des philosophes.
Oui, mais ce dont nous parlons, et vous l'avez dit vous-même, c'est de l'élection. Qu'en est-il de ces autres qui ne sont pas élus?
Oui, mais il ne faut pas comprendre l'élection dans un sens nationaliste, bien entendu. Je crois qu'il ne s'agit pas du tout de ça. L'élection, c'est la capacité où chacun est d'entendre comme à lui adressée la parole de l'autre. Et en ce sens, il y a une vocation universelle de l'élection. Ce n'est pas un privilège, c'est une capacité. Comment je me dis, cette parole, c'est à moi qu'elle est adressée. Et c'est ça l'élection, véritablement. En ce sens, tout homme a la vocation de recevoir l'élection.
Même ceux qui n'appartiennent pas au peuple juif.
Bien sûr, oui. D'ailleurs, si vous regardez beaucoup de textes, il est question de l'homme, il n'est pas question du juif dans les textes. Donc c'est l'homme en tant que tel qui est appelé à cette vocation. Que maintenant, le peuple juif vive cette élection d'une façon tout à fait particulière, c'est-à-dire non seulement au niveau de ce souci éthique dont j'ai parlé, mais aussi donc avec toute une pratique de sa vie, des réglementations très particulières. Bon, d'accord, c'est peut-être qu'il veut essayer de penser cette élection dans le plus minime des instants de sa vie, mais je crois que ça n'exclut personne, et qu'il y a une vocation universelle. C'est l'être humain, c'est pas du tout une particularité.
C'est pas une ségrégation.
Absolument pas, absolument pas.
Les femmes dont vous parlez, ce sont des femmes qui ont été durement éprouvées, que ce soit par la stérilité, que ce soit par le fait que, par exemple, Sarah meurt seule, ou que Léa, malgré tout son désir de plaire à son mari, lui demeure toujours indifférente. Quelle est la place de l'épreuve dans la vie de ces femmes?
Je crois qu'elle est en effet, comme vous le soulignez, très 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 importante. Mais ce que j'aurais envie de souligner, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de ne pas se laisser abîmer par ces épreuves et de ne pas pactiser avec son propre malheur, de garder, et ça c'est profondément juif, de garder l'espérance malgré tout et en dépit de tout. Non pas nier la souffrance, certainement pas. Mais malgré tout, en dépit de tout, ça c'est peut-être, je crois, quelque chose de complètement essentiel pour comprendre ce que c'est que le judaïsme, l'espérance.
Souvent, actuellement, on peut entendre des gens qui disent que la révélation, les textes en tout cas qui se disent être des textes révélés, sont des textes en fait anti-féministes. Est-ce que vous pouvez en conclure de la même façon après les travaux que vous venez de faire?
Moi je ne crois pas. Je crois que quand on se rend attentif à ce que disent ces textes, il y a là une place tout à fait centrale de la femme, et elle a un rôle indispensable dans l'histoire sainte. C'est une des choses que j'ai essayé de montrer dans ce livre.
Vous dites ça comme philosophe ou comme croyante?
Je dis ça en rapport avec l'étude de ces textes, si vous voulez. Maintenant que dans la pratique de la vie, que à l'intérieur même de la synagogue, ces idées-là ne soient pas toujours bien comprises et bien respectées, que la femme ait été souvent tenue à l'écart de l'étude, et à mon sens du moins, je parle tout à fait personnellement, n'ait pas eu toujours la place qu'il me semble qu'elle aurait dû avoir, ça c'est vrai, mais ça nous passons là au niveau de l'histoire. De l'histoire positive, et bon, avec forcément des influences aussi, bon, des milieux extérieurs et des différentes époques.
Alors, qu'est-ce que nous disent ces textes sur le féminin?
Je crois qu'ils nous disent sur le féminin que, au fond, le féminin dans ces textes, je dirais, c'est peut-être le moment où l'être qui persévérait dans son être de façon tranquille, qui ne se questionnait pas sur son droit d'être, mais qui l'affirmait, se sent précisément arrêté dans cette affirmation de lui-même parce qu'il entend une vocation différente de celle de cette sainte persévérance dans l'être, la vocation à autrui, le souci d'autrui, la bonté vis-à-vis d'autrui. Le féminin, c'est peut-être ce moment où la bonté interrompt la geste de l'être.
Et ce féminin se trouve-t-il dans les femmes seulement?
Non,
ou
bien
dans
sûr
tout l'humain?
Que non, bien sûr. Non, ça, quand je dis féminin, justement, je ne dis pas les femmes, c'est bien entendu.
Donc les femmes ne sont pas les détentrices uniques du féminin?
Bien sûr que non.
Alors à partir de là, comment voyez-vous toutes ces revendications féministes?
Ça, je crois que là, il y a deux niveaux de compréhension. Il y a un niveau de compréhension des idées, et puis il y a les revendications féministes. Bon, de toute façon, ça, c'est un vaste débat. Mais il y a ce que sociologiquement, les conditions des femmes sont, et c'est vrai qu'elles ne sont pas toujours satisfaisantes. Donc, je crois qu'il y a deux niveaux de compréhension des choses.
Et ces textes aussi nous parlent du couple et de la maternité. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire sur ce sujet?
Sur la maternité, c'est un thème essentiel. Hein. On a parlé tout à l'heure de la stérilité, donc il y a ce désir profond de maternité. Il est sûr que ça se comprend tout à fait déjà par rapport à l'élection, parce que s'il n'y a pas d'enfants, de fils en particulier, l'élection ne pourra pas se poursuivre. Mais je crois que la maternité et la paternité sont pensées comme le moment où, finalement, par le fils, eh bien, l'homme et la femme peuvent transcender la finitude de leur temps. Je crois que c'est ça le message essentiel. Et j'aurais envie de dire aussi, ça ce n'est pas dans la Bible, parce que dans la Bible, la maternité et la paternité sont compris dans un sens premier, c'est-à-dire biologique. Mais moi je pense qu'on peut penser cette idée du passage au temps d'un autre, c'est-à-dire maternité et paternité, dans un sens qui n'est pas forcément biologique.
Donc il peut se faire d'une façon spirituelle.
Bien sûr, oui.
Comme le fait un professeur, par exemple.
Éventuellement.
Oui. Votre livre se termine par une phrase un peu étonnante, en tout cas un peu curieuse, où il est question de Messie et de résurrection. Et enfin, pour moi, cette phrase est demeurée mystérieuse. Est-ce que vous pourriez nous ouvrir des perspectives là-dessus ?
L'idée de la résurrection, elle est affirmée dans la liturgie juive, constamment, dans les prières. C'est-à-dire que la mort n'est pas le mot de la fin, n'est pas la fin des choses, mais jamais vous ne trouverez dans le judaïsme de texte qui spécule sur ce que sera véritablement cette résurrection, ni d'imagination sur cette résurrection. Mais je crois que c'est l'espérance que la mort n'est pas la fin des choses, que la mort n'a pas le dernier mot, et ça je crois que c'est une espérance que juifs et chrétiens partagent.
Catherine Chaillier, qu'est-ce que vous attendez du lecteur de votre ouvrage ?
Ça, je ne sais pas ce que j'attends. J'espère qu'éventuellement, ça peut l'aider un petit peu à lire, à se rendre attentif à ces visages de femmes sur lesquels on passe souvent trop rapidement, mmh. et peut-être de percevoir qu'il y a là une grande richesse. Que d'ailleurs peut-être ces lecteurs pourront poursuivre. Il y a sans doute des aspects que je n'ai pas vus et que eux-mêmes pourront percevoir.
Mais vos positions, est-ce qu'on peut dire qu'elles sont personnelles, que vous avez transposé là dans ces textes une lecture au fond qui vient de vos idées, ou si vous avez vraiment l'impression que vous avez atteint une certaine réalité du message?
Je crois, si vous voulez, ça c'est le propre de la lecture de la Bible. Nous interrogeons la lettre du texte. Nous en partons toujours, nous l'interrogeons pour qu'elle nous enseigne, mais comme le dit Lévinas, et d'ailleurs en empruntant l'expression à un rabbin qui s'appelait le rabbi de Volodzin, pour que la lettre nous parle, il faut souffler dessus. Et alors, plus on souffle dessus, si on a une bonne longueur de souffle, il y a une flamme qui monte. Alors, la flamme dépend de la longueur du souffle de chacun.
Et vous y avez mis...
Ça, je ne sais pas.
Le souffle de votre féminité.
Entre autres, sans doute. Je crois qu'un livre, on l'écrit toujours avec tout ce que l'on a, la totalité de sa personne, pas seulement son intellect.
Mmh. Et aussi le souffle de votre appartenance à ce peuple juif.
Oui.
Qu'est-ce que ça signifie pour vous, vraiment ?
Ce que ça signifie, je crois que c'est l'histoire d'une très longue fidélité, mais aussi l'histoire d'une espérance invincible, je crois.
Catherine Chaillier, je vous remercie.